48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
De 48 FM. Moi, ça faisait longtemps que j'étais pas venue ici. Ça me fait plaisir. Donc, le programme reste le même. Une heure d'émission, deux thèmes d'actualité locale. Et avec moi pour présenter ce mag, Nicolas.
Salut.
Salut. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la ressource en bois sur le territoire avec Julien Bouilly, qui est directeur de l'ONF de Lozère, donc l'Office national des forêts. Bonjour, Julien.
Bonjour. Qui n'a pas de micro.
Bonjour.
Et aussi avec Loïc Moline, donc qui est responsable de l'antenne du CRPF en Lozère, donc le Centre Régional de la Propriété Forestière. Bonjour.
Bonjour.
Et puisque les vacances d'hiver ont commencé cette semaine, nous allons aussi parler de loisirs d'hiver avec Éric Debène, qui est directeur du CDT de Lozère.
Bonjour.
Donc nous allons démarrer cette émission avec un petit point sur les forêts, juste pour dire qu'en Lozère, avec 232 300 hectares, la forêt recouvre 45% de la superficie du
vous
département.
Vous corrigez, messieurs, hein, si c'est pas juste. Hein.
C'est ça. C'est bon.
C'est bon.
Les données
précis.
Sont bonnes.
C'est très précis.
Hein, elle est trop forte. Elle est trop forte.
Oui, merci. J'ai pas l'habitude que tu fasses des compliments alors. Donc oui, au début du XXe siècle, la Lozère ne comptait que 10% de surface forestière. Et à titre de comparaison, donc en France, la forêt couvre le quart du territoire et en Languedoc-Roussillon le tiers. Donc On est plutôt pas mal sur la Lozère.
Donc c'est, voilà. C'est un département ultra boisé parce que les moyennes nationales ne sont pas celles-là, si ? Messieurs, vous savez un peu... c'est pas une question de piège. Hein, c'est...
Alors effectivement, comme ça a été rappelé, la Lozère est un département forestier en termes de surface et de taux de boisement. 45% de la surface du département est boisée, c'est important, bien au-dessus de la moyenne nationale et régionale. Et c'est effectivement lié à l'histoire depuis un siècle où la surface forestière a fortement évolué sur le département et ce qui explique probablement les missions que nous expliquerons aujourd'hui.
Très bien. Mais est-ce que vous pouvez juste continuer donc en nous expliquant un petit peu les missions de l'ONF, Julien ?
L'ONF gère les forêts publiques. Qui sont constitués de deux grands types de forêts différentes. D'une part, les forêts domaniales et d'autre part, des forêts des collectivités. Alors, sur le département, la surface gérée par l'ONF est minoritaire et c'est important de le préciser. Les trois quarts des forêts lozériennes sont des forêts privées. Le quart restant, ce sont des forêts publiques gérées par l'ONF. Et dans le cadre de...
Donc sur les 45% de forêt, il y a...
C'est ça.
C'est 15% en gros sur... C'est ça ?
25% de forêt publique.
25% de forêt publique, d'accord.
Grosso modo, l'ONF gère 10% du département, selon ce que je dis. Et donc à peu près moitié forêt domaniale, moitié forêt des collectivités. En forêt domaniale, l'ONF agit en tant que représentant de l'État propriétaire. En forêt des collectivités, l'ONF... met en œuvre un service public forestier pour le compte des communes propriétaires. C'est essentiellement des sections sur le département. Et on agit, en l'occurrence en Lozère, pour le compte de 119 communes propriétaires. Ce sont les deux tiers des communes de Lozère qui possèdent des forêts que nous gérons.
Donc juste pour résumer, vous avez dit forêts domaniales. En gros, c'est les forêts d'État, c'est ça ?
C'est ça.
Parce qu'on... On parle souvent forêt domaniale demande, donc ça veut dire que c'est pas de la ville demande, c'est de l'État. Oui, pour bien comprendre, parce que quand on se balade, en fait, on voit souvent des panneaux forêt domaniale. Donc moi, bêtement, je me suis dit, tiens, ça appartient à la ville demande. C'est pas du tout le cas.
Vous avez raison. Une forêt domaniale appartient à l'État. Alors son petit nom, c'est demande ou des gorges du Tarn ou des gardons, ou de la croix de bord, mais ça, c'est son petit nom.
D'accord, très bien. Donc, forêt domaniale, c'est État, et après, c'est forêt des collectivités locales.
C'est ça.
D'accord.
Nos missions ? Alors,
oui.
On a...
oui, oui, on
qu'est-ce qu'on y fait ? Qu'est-ce que ça veut dire, la gestion durable des forêts publiques ? Alors, on a une mission sur le département qui concerne, grosso modo, l'économie de la forêt et du bois. L'ONF est l'approvisionneur majoritaire de la filière bois locale. Alors, la filière bois locale, on va essayer de pas trop donner de chiffres, mais quand même, c'est bien d'avoir quelques références à l'esprit. C'est plus de 2000 emplois. C'est un secteur de premier plan dans l'économie du département. Et l'ONF a un rôle social et économique par rapport à cela important dans l'approvisionnement des entreprises locales de transformation pour les différentes qualités de bois. Alors généralement, on a trois qualités de bois qui sont distinguées. Le bois énergie, ensuite le bois d'œuvre pour le coffrage et l'emballage, et enfin le bois d'œuvre pour la construction et la menuiserie.
Donc ça correspond à des essences particulières qui sont cultivées sur le département, c'est ça ?
Effectivement, il y a différentes essences alimentent différentes qualités de produits en bois. En complément de cet enjeu de production et d'économie vis-à-vis de la filière locale, de la filière bois locale, l'ONF assure des missions de préservation de la biodiversité. Par exemple, nous gérons des surfaces importantes de forêts publiques en zone de parc national des Cévennes. Nous gérons également une proportion importante de forêts publiques en site Natura 2000. Nous avons également des missions qui sont dévolues à l'accueil du public en forêt pour différentes pratiques de loisirs, depuis la chasse jusqu'à la récréation du public en forêt domaniale à proximité de Mende, par exemple. Et donc, notre rôle, c'est de concilier les différentes pratiques de loisirs en forêt. À côté de cela, en plus de ces trois grands piliers, économie, environnement, accueil du public, on a des forêts qui présentent des risques vis-à-vis des incendies et de l'érosion des sols. Donc nous avons des missions pour lutter contre les risques d'incendie et pour préserver les sols à partir de l'état boisé. Voilà, résumé les grandes missions.
C'est un peu dur, on jongle avec les micros. Et donc, merci. Et vous, Loïc, vous pouvez nous parler un peu du CRPF. La différence, du coup, vous, c'est les forêts privées.
Voilà, exactement. Donc, nous, on intervient sur les 75% des forêts du département, donc qui appartiennent à une multitude de propriétaires forestiers. Donc, on en compte approximativement 25 000 sur le département de la Lozère.
25 000 propriétaires. C'est énorme, voilà. Hein.
Oui, c'est beaucoup. C'est d'ailleurs l'un des problèmes de la forêt privée, c'est qu'elle est morcelée. Et souvent, en fait, on considère que 80% des propriétaires possèdent moins de 4 hectares de forêt. Et ces 4 hectares, ben, souvent, ne sont pas d'un seul tenant, mais sont explosés
en petites parcelles. C'est voilà. Ça, ouais.
Donc voilà, donc le Centre régional de la propriété forestière intervient auprès de cette multitude de propriétaires. Et donc le CRPF est un établissement public donc, qui dépend du ministère de l'Agriculture et de la Forêt. Et ses missions, elles sont eh bien, de conseiller, d'informer et de former les propriétaires qui, vous le comprenez bien, ne sont pas des professionnels. Ce sont des personnes comme vous et moi qui ont une activité...
Il y a aussi des professionnels, non ?
Mais ils sont... Des propriétaires qui vivent de leur forêt, ça n'existe pas.
D'accord.
À ma connaissance, sur le département, il n'y en a pas. Voilà. Ça peut être un hobby, ça peut être apporter des revenus complémentaires, mais ce n'est en aucun cas une profession en tant que telle.
Et qu'est-ce que ça implique d'avoir une forêt ? Quelle obligation on a ou...
Alors,
Donc par exemple, demain, j'achète une parcelle,
ouais.
D'accord, quelque part là, en Haute-Margeride, un petit endroit avec un petit coin de rivière, et il y a une belle forêt là qui fait 1,5 hectare. Qu'est-ce que je fais ? Il faut que je m'inscrive chez vous ? Ça marche comment ?
Alors, ce n'est pas une inscription. En fait, c'est l'avantage quand même de la forêt, c'est comme Julien Bouilly l'a évoqué, c'est qu'il y a différentes fonctionnalités, différentes fonctions, différents enjeux. Donc, on peut faire de l'économie, on peut faire de l'écologie, on peut faire du social. Et donc, c'est bien le propriétaire qui décide quel va être le rôle assigné à sa forêt. Nous, on intervient en tant que conseil auprès de ce propriétaire. Il se manifeste, on intervient gratuitement et on va lui indiquer les possibilités qui sont possibles, donc qui sont envisageables sur sa forêt. Et après, on va le conduire vers des intervenants qui nous appuient dans le domaine de la gestion forestière. puisque le CRPF, contrairement à l'ONF, n'est pas un gestionnaire. Il est conseiller et après, il donne des adresses de gestionnaires forestiers, d'acheteurs de bois,
d'entrepreneurs. Donc vous êtes amené à travailler avec l'ONF ou pas ? Pas trop ?
On travaille sur certains sujets en commun. Julien Bouilly évoquait le parc national des Cévennes. Il y a de la forêt privée, il y a de la forêt publique. Donc on a des ententes, on a des objectifs communs. Et puis il y a certains sujets aussi un petit peu clés, un peu stratégiques, qui concernent par exemple l'accessibilité à nos forêts, donc par la voirie, par la desserte. Et donc là, pareil, on partage des objectifs communs et donc on travaille de manière simultanée.
Je rajoute un petit complément. Nos missions sont effectivement complémentaires, forêt privée, forêt publique, mais nous avons un cadre d'intervention et des problématiques en face de nous qui sont souvent similaires. L'une d'entre elles, c'est de doter les forêts lozériennes d'un cadre de gestion durable, avec des documents qui planifient la gestion dans le temps. Donc on retrouve à peu près la même problématique en forêt privée qu'en forêt publique pour cela.
Quand vous parlez gestion durable, c'est concrètement, c'est quoi ? J'ai toujours le même exemple, 1,5 hectare de forêt haute margeride. J'ai pour essence de l'épicéa et on va dire du pain noir d'Autriche. Je l'exploite comment ? Est-ce que je dois le couper ? Est-ce qu'il y a de la prévention par rapport aux insectes qui peuvent nuire sur cette forêt-là ? Est-ce que je dois faire des coupes pour faire des circulations à l'intérieur ? Est-ce que je dois faire des chemins ? Comment rendre tout ça ? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ce mot développement durable dans une forêt qui est liée à un propriétaire privé ou à une collectivité ?
Alors la gestion durable, c'est un petit peu ce qui est le leitmotiv du métier de forestier. On s'appuie sur un document socle qui en forêt privée s'appelle le plan simple de gestion. Loïc Moline pourrait en dire un mot. En forêt publique, c'est l'aménagement forestier. Alors c'est quoi ce document socle ? C'est un document qui organise et planifie la gestion des forêts dans le temps. Il s'appuie sur une analyse du passé et de la gestion de la forêt. Il s'appuie sur une étude de l'existant, précise les conditions de croissance, l'équipement de la forêt vis-à-vis de la desserte, et qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire, la qualité des sols, les essences qu'on va pouvoir y installer. Et ensuite, il se projette vers l'avenir, en général une durée de 20 ans, pour planifier la gestion sur le long terme.
20 ans, c'est pourquoi ? C'est à peu près la croissance moyenne d'un arbre, c'est ça ?
C'est inférieur à la croissance moyenne d'un arbre. C'est un pas de temps relativement raisonnable pour que les interventions planifiées restent réalistes. La croissance d'un arbre, c'est plutôt de l'ordre du siècle, quand même. Ce document, il est certifié, approuvé par l'autorité administrative. Donc il garantit que les opérations de gestion, notamment une opération clé dans la vie d'une forêt, le renouvellement sur la petite propriété de la margeride que vous citez, une fois qu'il y a une coupe, il faut réinvestir une partie des recettes pour renouveler la forêt. Donc ce document prévoit le renouvellement, techniquement, financièrement, et le propriétaire, quelque part, s'engage à faire en sorte que la ressource, une fois qu'elle est récoltée, soit ensuite régénérée. Donc, par ce type de document, donc effectivement, il y a des garanties de gestion durable. J'ajouterai que les forêts publiques en Lozère sont certifiées vis-à-vis de la gestion durable.
D'accord. C'est certifié par l'État ? Par qui ?
C'est un organisme de certification extérieure, pas par l'État.
D'accord. Est-ce que le taux de renouvellement est important en Lozère ? Est-ce qu'il y a plus de... Enfin, par rapport à ce qu'on coupe, notamment sur l'ONF ? Est-ce que ça, c'est mesuré, du coup ? Entre ce qu'on coupe et ce qui repousse, est-ce qu'on est sur un déficit ou on est, au contraire... Parce que c'est un peu la question... Enfin, la question derrière, c'est qu'en fait, on parle depuis un certain nombre de temps de la filière énergie, bois, voilà, avec le réseau de chaleur sur Mende, etc. Le fait qu'on est en train de puiser dans cette ressource et qu'il y a des inquiétudes qui montent en disant mais bientôt on n'aura plus de bois parce que si on doit fournir tout le monde en bois pour que en forme de plaquettes ou de granulés, etc. Bientôt on n'aura plus assez de ressources, donc est-ce que c'est vraiment du développement durable ?
Alors à l'ONF, pour les forêts publiques, la ressource est récoltée de façon relativement proportionnelle à l'effort de renouvellement. Donc on est dans un cadre de gestion durable, on peut le dire. Alors plus précisément, ou avec quelques compléments, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Nous sommes dans une phase actuellement, alors actuellement c'est depuis une dizaine d'années, hein, jusqu'à maintenant, d'augmentation de la récolte en quantité, également en qualité. On en parlera peut-être tout à l'heure, la production du bois de qualité sur le département, c'est un gros sujet. Nous augmentons la récolte de bois en quantité parce que les forêts domaniales et des collectivités arrivent au fur et à mesure au stade de maturité. Exactement. Donc on est.
Oui, c'est ce qu'on voit sûrement sur la vallée du Lot, là, quand on part sur Balsièges, là. Ça a été bien nettoyé, enfin bien récolté, on va dire ça.
Alors
comme
on
ça.
Est effectivement pour ces exemples-là au stade de renouvellement de la forêt, la coupe de régénération a eu lieu. On arrive à la deuxième génération de la forêt, donc c'est une étape cruciale où il nous faut et où nous investissons directement derrière par une plantation, un renouvellement de la forêt. Les forêts lausannes arrivent effectivement progressivement au stade de maturité. Donc c'est une bonne nouvelle parce qu'on produit plus de bois, on en commercialise davantage. La filière bois locale également en demande davantage. Donc ça génère de l'emploi dans l'économie locale. C'est aussi une exigence. C'est une exigence d'investissement, de renouvellement. Et nous le suivons de près à l'ONF.
Le parallèle, on va dire, en forêt privée, qui, on l'a expliqué tout à l'heure, n'est pas tout à fait identique, puisque les détenteurs de la ressource ne sont pas des professionnels. D'un point de vue historique, on a dit, début du XXe siècle, 10% de couverts forestiers. Aujourd'hui, 45%. Ça s'explique par deux phénomènes majeurs. L'abandon des terres agricoles suite à l'exode rural, suite à la guerre.
En quelle année ?
Ça, c'était plutôt les années après la Première Guerre mondiale et après la Seconde. Voilà, c'est ces deux phénomènes-là qui ont accentué, en fait...
Donc entre 18 et,
voilà, et 45. Voilà.
D'accord.
Donc, abandon des terres agricoles qui se sont boisées naturellement. Et deuxième phénomène, politique volontariste de l'État, après la Seconde Guerre mondiale, le Fonds forestier national. Les épicéas que vous évoquiez tout à l'heure, ils ont été plantés dans les années 60-70 en Lozère. On a planté du Douglas dans les Cévennes, on a planté du pin noir sur l'Écosse, par exemple. Voilà, donc c'est deux phénomènes un petit peu liés.
Oui, parce que notamment sur le cause demande, là, vers le village mort du Gerbal, on me disait qu'avant c'était tout pelé et qu'en fait il n'y avait aucune forêt, il n'y avait rien.
Oui,
tout à fait. Et que c'était reboisé et qu'on arrive aujourd'hui presque à maturité, hein, c'est ça ?
Ouais, c'est à peu près ça. L'histoire forestière sur le département est importante, pas simplement pour connaître le passé, mais aussi pour comprendre le présent. Si on remonte encore un peu plus loin, c'était boisé.
D'accord. Et, ouais. Avant Jules César, c'est ça et,
non, ouais.
Ouais. Non, mais parce qu'il se raconte plein de choses.
Voilà. Au Moyen-Âge. Mais, ensuite, effectivement...
Au Moyen-Âge, non, je crois pas, non.
Au Moyen-Âge, ça a commencé, je pense, à être déboisé, non ?
À être très, très déboisé, oui, parce qu'en fait, on utilisait beaucoup le bois.
Le Moyen-Âge est une période...
dévastatrice.
Creuse, pour les boisements. Il y avait très peu de forêts au Moyen-Âge, contrairement à l'idée reçue qu'on peut avoir.
Tu vois, la forêt de Sherwood, c'est des béboires, quoi. Ouais, avec Robin Desbois, ça, c'est faux.
Alors, ça nous amène loin de la Lozère et du Causse que vous citiez. Mais si on revient localement sur le Causse que vous citiez, effectivement, il y a un siècle et demi, il y avait... des terres qui n'étaient pas boisées. C'était des terres qui étaient historiquement, mais là, au-delà de l'exemple précis du Causse, valorisées par le pastoralisme. Et on a rencontré, pas partout, mais dans un nombre assez significatif de cas sur le département, des situations de surpâturage ou de surexploitation de la forêt. Qui a conduit à quoi ? À le fait qu'il y ait dans ces zones, dans certaines de ces zones, plus d'herbes. Et le sol était mis à nu, avec des gros problèmes d'érosion, donc qu'on l'a cité tout à l'heure, de glissement de terrain. Lors d'épisodes cévenols, cela engendrait des conséquences catastrophiques sur le plan matériel, parfois humain. Et l'État, à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, a décidé de reboiser ces terrains pour la restauration des sols. Et ça, cette histoire, c'est l'origine des forêts domaniales en Lozère.
D'accord.
Et juste pour revenir sur cette idée de renouvellement de nos forêts, donc le premier point, c'est l'histoire qui nous indique que les forêts lozériennes sont relativement récentes, relativement jeunes, comparativement à des massifs comme on peut trouver dans le Jura, en Franche-Comté.
Ou les forêts de Troncay.
Ou la forêt de Troncay. On a plutôt globalement une forêt en Lozère qui est entre 50 et une centaine d'années, un peu plus vieille pour les forêts domaniales. Donc, par rapport à ce point de vue, on a de la forêt jeune et l'histoire du renouvellement, il est conditionné par plusieurs choses. C'est d'une part la législation, puisque normalement, un espace qui est boisé doit rester boisé. Donc, lorsqu'on le coupe, on le renouvelle. C'est justement le principe de gestion durable.
D'accord.
Donc, pour assurer la pérennité.
C'est ce qui a été le cas pour la ville de Mende sur le PRE, non ? Il n'a pas fallu reboiser une partie qui avait été coupée, c'est ça ?
Si, c'est ça. C'est l'histoire de compensation.
Sur les collectivités, c'est ça.
C'est de la compensation.
Si on compense en reboisant un autre endroit qui n'est pas forcément à proximité de l'endroit qu'on a déboisé.
Tout à fait. Mais il y a quelques exceptions par rapport à des demandes particulières, notamment d'agriculteurs qui ont besoin de davantage de terres. Et donc, aujourd'hui, avec les phénomènes un petit peu bois-énergie et puis les besoins des agriculteurs, on va dire que le niveau forestier aurait tendance à se stabiliser, voire légèrement décroître. Voilà. Mais on maintient quand même une ressource forestière conséquente sur le département.
Il y avait une jolie histoire aussi, c'était autour du Mont-Aigoual, le reboisement en fait du Mont-Aigoual. Là, on est sur la forêt comme elle a été replantée, en fait, où elle a commencé à déjà être exploitée.
Alors, la forêt domaniale de l'Aigoual, 15 000 hectares assis à cheval sur le Gard et la Lozère, c'est une success story. Les forestiers à l'école apprennent toujours cet exemple. C'est un exemple de reboisement réussi, effectivement, il y a un siècle. Alors avec, lié à le contexte d'érosion des sols, avec des travaux titanesques, plus de 60 millions d'arbres plantés, qui ont associé des compétences forestières, mais aussi des compétences botaniques très importantes. Et qui ont ensuite donc abouti à ce que nous héritons aujourd'hui comme forêt domaniale il y a plus de 100 ans. Mais le premier objectif, c'était de lutter contre l'érosion des sols. Cet objectif a été magnifiquement rempli. Ensuite, à cela a été assigné un autre objectif de production de bois, parce qu'on s'est aperçu que le bois qui poussait, que les arbres qui poussaient avaient une valeur économique. Et ensuite, c'est le développement d'une filière locale autour de l'Aigoual. Et on s'est aperçu également qu'il y avait. On est dans un contexte biogéographique très particulier, donc avec une biodiversité très élevée. On est également géographiquement sur l'arrière-pays montpelliérain, un rôle très important d'accueil du public. Et aujourd'hui, la forêt domaniale de l'Aigoual a été retenue par l'État, présélectionnée par l'État pour bénéficier du label forêt d'exception. Qui n'est un label qui ne peut être accordé qu'à une quinzaine de forêts domaniales sur 1500 en France. Donc 1% des forêts domaniales ne peuvent prétendre à ce label. Et la domaniale de l'Aigoual l'est.
D'accord. Donc variété, biodiversité, c'est ça ?
Économie, biodiversité, accueil du public, érosion des sols. C'est une forêt qui s'inscrit dans le territoire et c'est ce qu'on ressent aussi à l'ONF. Les acteurs locaux sur le territoire se sont appropriés la forêt domaniale de l'Aigoual, fortement.
Donc on a planté un certain nombre d'espèces, souvent à croissance rapide, pour retenir les sols, sur ces périodes-là, après-guerre. Hein. Mais pas que. Par contre, quand on se balade, c'est vrai, en Lozère, on a quand même cette image très prégnante d'une forêt essentiellement faite de conifères. C'est ça, hein. Est-ce qu'on n'a pas, une fois qu'on aura coupé tous ces arbres, est-ce qu'on va replanter d'autres essences différentes qui s'acclimatent très bien dans nos pays et qui auraient, en termes de valeur de bois, peut-être une proportion à être plus rééquilibrée sur du feuillu plutôt que du conifère, ou je me trompe complètement ?
Alors effectivement, la Lozère est plutôt composée en majorité d'essences résineuses. C'est globalement 2/3, 1/3. Là où on trouve le plus de feuillus, c'est dans la zone Cévenole, avec notre fameux châtaignier. Et puis donc
et
du hêtre sur les Gouales. Ouais, voilà. Mais effectivement, sinon, on trouve beaucoup de résineux, donc du pin sylvestre, du pin noir, de l'épicéa, du douglas, du sapin, etc., qui sont des essences qu'on considère souvent comme des essences frugales. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de peu d'eau, peu d'éléments minéraux pour bien se développer. Et elles sont assez résistantes aussi aux conditions climatiques que l'on peut trouver dans notre département. C'est ce qui explique, en grande partie, la prédominance de ces essences.
Le choix de ces essences, ouais.
Le deuxième point, c'est que ces essences résineuses sont assez recherchées par les acteurs de la filière qui transforment...
Les Chinois ?
Même les Chinois.
De Sherwood à Pékin, on va loin.
On pourra y revenir sur les Chinois. Mais globalement, en Lozère, on a de la filière bois qui est bien présente et ils transforment les bois du département.
D'accord. Le Douglas étant un des bois de construction fort apprécié, hein, voilà. Puisqu'il est imputrescible et antifongique, tout ça.
Et troisième point, par rapport à l'avenir. Donc, on a parlé des forêts de première génération, de pins sylvestres. Ce qu'il faut savoir, c'est que la forêt, elle évolue naturellement. Et donc, derrière une forêt de pins sylvestres, essence pionnière qui aime la lumière, eh bien, on va commencer à trouver d'autres choses, d'autres essences qui vont arriver spontanément avec les animaux ou alors grâce à l'appui de l'homme. Et donc, on va commencer à retrouver du hêtre, du sapin pétiné.
Naturellement, qui se...
D'accord. Voilà, qui va venir en sous-étage et qui va prendre le relais de l'essence qui était initialement D'accord. présente.
Un mot de complémentaire sur les essences sur le département. Effectivement, la majorité d'essences résineuses. Ce sont les résineux qui donnent les meilleurs produits et la meilleure qualité de bois, contrairement à une idée qui peut être reçue.
Moi, on m'a toujours dit que c'était le chêne, le hêtre.
On n'aura jamais en Lozère de chêne de qualité comme la forêt domaniale de Troncé qu'on a citée tout à l'heure.
Parce qu'en fait, ils vont rester petits, c'est ça?
La rectitude du tronc sera jamais très bonne. Ils n'auront jamais une grume longue. Ce sera un bois assez nerveux qui pousse dans des conditions difficiles. Et puis les sols du département sont quand même pas les plus fertiles de France. Toutefois, les résineux donnent des produits de bonne qualité. On citait le sapin pectiné, qui est actuellement un produit très recherché. On citait le Douglas également.
Sapin pectiné.
Oui, c'est le sapin.
D'accord.
C'est le sapin commun.
Sapin de Noël, quoi, qu'on voit, qu'on dessine quand on est gamin, c'est ça ?
Pas encore même. c'est le sapin commun qu'on voit en forêt. Le Douglas est également un sapin et donne du bois de très bonne qualité. Je pense qu'on n'a pas à rougir en Lozère de la qualité du bois des résineux. On n'en a pas à rougir, et ce qu'on constate à l'ONF en ce moment, c'est que avec le stade de maturité des forêts publiques, on commercialise de plus en plus de bois de qualité, de type construction ou charpente ou menuiserie, et on s'aperçoit que
donc on n'a pas besoin de faire venir du bois de Pologne par exemple pour construire des maisons en bois en Lozère.
Et on s'aperçoit que l'offre de bois que nous mettons sur le département satisfait les entreprises locales, mais également satisfait les entreprises extérieures qui reconnaissent la qualité du bois produit sur le département. Un dernier mot, on a parlé d'histoire, on va se projeter dans l'avenir. La deuxième génération des forêts qu'on prépare, c'est une génération de forêts qui, en qualité, sera meilleure que la génération actuelle. On en est convaincus. Alors on essaie aussi de l'accompagner en diversifiant les essences.
Et qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Parce qu'on s'approche du stade de maturité actuellement. Nous avons les données qu'on collecte en forêt et les données également qu'on constate dans la commercialisation des bois montrent que la part du bois de qualité augmente dans notre offre de bois sur le marché. Et les essences que nous plantons actuellement pour la deuxième génération de forêts sont constituées dans le panel de ce qu'on peut choisir d'essences plus de qualité que celles existantes.
D'accord.
Donc on disait qu'on a du bois de qualité, mais est-ce qu'on a des usines de transformation, de valorisation de ce bois sur le territoire ?
Oui. Oui, oui. Donc Julien Bouilly parlait des 2000 emplois qu'il y avait donc dans le domaine de la filière forêt-bois sur le département. Parmi ces 2000 emplois, bon nombre sont liés en fait aux activités de transformation du bois. Et donc avec la présence sur le territoire de nombreuses scieries, et donc qui transforment essentiellement du résineux.
Il y en a combien aujourd'hui en Lozère ? Une vingtaine,
trentaine ? Une vingtaine à peu près,
c'est ça,
oui. 25.
Scierie de taille industrielle, on a c'est pas très joli comme portefeuille, mais on a en face de nous à peu près 70 clients à l'ONF, majoritairement sur le département. Alors il y a aussi des toutes petites unités de sillage qui ne s'approvisionnent pas directement auprès de nous. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un atout formidable pour le département, c'est celui d'avoir une ressource locale qui est globalement très bien transformée localement. Et pour les différentes qualités de bois. Bois énergie, bois d'œuf coffrage emballage, bois d'œuf construction. Et ça, dans le contexte d'un département du Grand Sud de la France, c'est assez unique. Donc il y a cet atout pour le département qui nous permet de commercialiser la très grande majorité des bois localement.
Et vous pensez qu'il y a une progression possible sur ce domaine-là, en termes d'emploi et d'économie, ou est-ce qu'on arrivait à peu près au volume?
On constate, comme on le disait tout à l'heure, qu'on augmente la qualité du bois commercialisé. Et effectivement, il y a probablement une marge de manœuvre pour le secteur qui est le plus pourvoyeur d'emplois, à savoir la construction. Un mètre cube de bois dans la construction génère 10 fois plus d'emplois qu'un mètre cube dans l'énergie. Et nous ne commercialisons pas toute notre offre pour la construction sur le département. En partie parce qu'il n'y a pas de capacité suffisante de transformation du bois de construction.
Et plus généralement, le département de la Lozère donc a 45% de son territoire qui est couvert par la forêt. Donc c'est une ressource naturelle quand même très conséquente, une vraie chance, on l'a dit, au niveau national. Donc pour moi, il y a un vrai espoir à valoriser cette ressource. Simplement, il faut que les propriétaires aussi en prennent conscience. Parce que quand on va avoir des beaux légumes dans son jardin, il faut travailler.
Il faut le cultiver. Ouais.
Il faut le cultiver. C'est ouais. Pareil en forêt. Pour avoir des jolis bois, des jolis produits, il faut accomplir des actes de sylviculture. Les propriétaires doivent essayer de mettre cela en œuvre. Et derrière, vous avez des bûcherons, des débardeurs, des transporteurs, des transformateurs. Donc de première transformation, deuxième transformation. Et tout ça, ce sont des emplois qui peuvent être locaux sur le département de la Lozère.
Si la forêt paraît immuable comme ça, en fait, c'est un monde très vivant. Beaucoup d'activités.
Oui, plus la cueillette et tout ça.
La cueillette,
oui. Qui nous fera passer au tourisme tout à l'heure.
Oui, bien sûr.
Bon, et bien voilà.
Oui, c'est un sujet, on pourrait en parler pendant très longtemps. C'est vrai qu'on n'a pas... Bon, quand on se balade, quand on est lozérien, on a le sentiment que la forêt est omniprésente dès qu'on sort de Mende... de n'importe quelle ville de Lozère, hein. On est vraiment baigné dans... Et puis les touristes, quand ils viennent, cette sensation de plénitude et de... Par contre, vous savez que c'est pas bon du tout pour la radio, hein. Vos résineux, là, ça nous arrête les ondes. C'est vrai, les résineux sont... Les conifères, en général, c'est très mauvais pour les ondes, pour que ça fait des barrières. Voilà. Donc il va falloir vous couper tout ça sur le cause, hein, d'accord. Voilà, c'était juste ma petite boutade.
Non, moi j'avais juste une dernière question. C'était, vous parlez d'accueil des publics dans les forêts. C'est quoi en fait? Vous faites des sorties, des panneaux pour expliquer ce qui s'y passe, ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est en fait, concrètement, cet accueil?
En forêt publique, on parlait d'accueil pour des activités de loisirs diversifiées. On a cité la chasse, mais également il y a le tourisme vert. Il y a aussi la cueillette des champignons qu'on a cité. Alors le tourisme vert pour les locaux, qui n'est pas le même que le tourisme vert pour l'extérieur, entre guillemets. La première chose, c'est relever le challenge de concilier tout cela. Ensuite, concrètement, ça se traduit comment? Alors les agents de l'ONF, de temps en temps, effectuent des sorties en forêt, c'est vrai.
Donc on peut les apostropher, leur dire « Monsieur, venez m'expliquer quelles sont les essences, ça ?» On peut faire ça?
Alors,
moi, je vous le dis, je l'ai fait déjà, mais je connaissais la personne. J'étais sur le Germal, là-haut, puis j'en ai chopé un, je lui dis « Bon, explique-moi, là, l'histoire. »
si on veut rentrer un peu dans le détail, mais c'est pas nécessairement le plus intéressant, je pense, dans le propos, il y a une partie des missions de l'ONF qui est dans le domaine concurrentiel, c'est-à-dire qui est payante. Et donc, ça fait partie des activités marchandes de l'ONF. Dans certaines conditions. Concrètement, c'est quoi encore l'accueil du public en forêt? C'est l'aménagement de sites. Sur la domaniale de Mende, on a l'acrobranche, les différentes activités découvertes, arboretum, laser green, et via ferrata et j'en oublie. C'est aussi, on s'appuie beaucoup en Lozère sur à l'ONF sur un atelier bois. C'est une dizaine de personnes qui travaillent sur la commune de Meruès et qui fournissent, fabriquent des équipements d'accueil du public dans les espaces naturels, en forêt ou hors forêt d'ailleurs, et qui travaillent de façon avec une grande qualité, sur mesure, en s'adaptant à la commande qui est effectuée. Et c'est aussi de l'emploi local qui est valorisé. Et donc on a toute une palette d'interventions depuis ce qui peuvent aller jusqu'à des chalets en forêt. Ou alors la simple et classique table banc en forêt.
Merci beaucoup.
Merci.
Bon, on va faire une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après avec du tourisme.
I'm
48 FM Le Mag.
Donc de retour dans ce Mag de 48 FM, toujours en direct. Donc après avoir parlé de la ressource en bois, nous allons parler des activités d'hiver avec vous, Eric Deben, qui êtes directeur du CDT de Lozère.
Voilà, de Lozère Tourisme.
Voilà, super. Donc, est-ce que vous pouvez...
Récemment nommé.
Récemment nommé, donc depuis le 1er octobre. Voilà. En fait, je suis arrivé en même
temps
que Julia.
En même temps que moi.
Voilà.
Alors, que fait le CDT ?
Alors, le CDT, pour être très, très simple, a en charge essentiellement la promotion touristique du département, c'est-à-dire de le mettre en avant et en faire sa promotion. Alors, il a aussi en charge de... Il peut concevoir aussi des produits et les commercialiser. Voilà, en gros, c'est de faire la promo de la Lozère et de vanter la Lozère pour faire venir un maximum de personnes sur le département.
D'accord. Quel statut ?
C'est une association, c'est ça ? Oui. Qui compte à peu près 35 personnes, mais qui n'est... Toutes les personnes ne sont pas sur Mende forcément. On a deux ambassades qui sont la Maison de la Lozère à Paris, hein, où on a une maison du tourisme, où il y a aussi une vente de produits locaux, un restaurant de la Maison de la Lozère. Alors le restaurant de la Maison de la Lozère et la Maison de la Lozère à Paris sont juste derrière la place Saint-Michel, en fait, dans le 6e arrondissement, donc qui est un quartier très vivant, qui est très fréquenté
placé,
aussi. Ouais. C'est un joli endroit.
Et si on est lausérien, on peut y aller
bien sûr,
on mange gratos ou non ?
Pas tout à fait, mais en tout cas, vous avez le plaisir d'avoir de très bons produits, parce que la majorité, tous les produits viennent de Lozère, en fait. Voilà, bien sûr, mis à part les fruits et légumes, hein, mais tout le reste vient de Lozère. Donc c'est une bonne adresse, j'en profite pour nos amis forestiers, que s'ils souhaitent faire des réunions à Paris, ils peuvent profiter aussi de l'espace de la Maison de la Lozère. Et on a aussi un bureau avancé, enfin une maison du tourisme sur l'aire de la Lozère, sur la 75, à l'entrée du département, à hauteur de la garde. Voilà. D'accord. On a deux personnes là qui sont en permanence toute l'année, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de monde qui passe aussi sur l'aire de la Lozère.
D'accord. Donc on va juste faire une toute petite pause, parce que j'ai été interviewée des Mendois pour savoir qu'est-ce qu'ils faisaient pendant leurs vacances d'hiver habituellement ou... Voilà, donc on les écoute.
Je pars une semaine au ski dans les Alpes, en fait. Mais vu que c'est un budget et que j'aime bien le ski, après le reste des vacances, j'y vais au coup par coup dans les stations de Lozère. Sinon, après, j'en profite pour aller voir la famille. Je me repose aussi. Quand je suis en vacances, le matin, je dors.
Je dors. Je vais me coucher et je vais dormir.
Du coup, habituellement, je reste en Lozère. Et là, ça fait 2 ans que ouais, je bosse. Donc, soit mes cours, hein, mais là, c'est travail. Les vacances d'hiver, non, je reste boulot. Comme ça, puis là, j'ai raté une semaine, donc pour le rattraper.
Alors, moi, je reste plutôt en Lozère. Et en fait, c'est la famille qui vient. Et on en profite pour faire des balades en raquettes, des batailles de boules de neige, etc. Voilà, neige, 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 quand il y en a.
J'aime bien faire des raquettes, mais plutôt ici. Je pars pas. Je pars pas parce qu'on a plein de choses à faire en hiver ici.
Là, pendant les vacances scolaires, je ne vais pas faire grand-chose parce qu'en fait, travaillant pas mal de soirs dans la semaine dans un internat, c'est vrai que du coup, je vais profiter d'être pendant les vacances chez moi, à ne pas faire grand-chose. Après, je vais peut-être un peu bouger à Montpellier quand même parce que je suis originaire de Montpellier, que j'ai ma famille là-bas. J'aime le ski. Après, je ne suis pas une grande skieuse, donc j'imagine passer quelque temps à faire du ski, ça sera plus sur le temps d'une journée ou une après-midi, mais pas pendant les vacances entières.
Alors oui, habituellement, nous restons en Lozère. On va faire un petit peu de ski dans les stations lozériennes. Mais cette année, un petit peu particulier, on reste une semaine en Lozère et ensuite on monte dans le Grand Nord. Voilà. Donc ski, on se repose aussi, parce que c'est bien aussi de temps en temps. Donc voilà, non, ski, balade, on profite un peu de la Lozère.
Bah, tu m'as pas mis. Voilà. Donc, vacances d'hiver, ouais. Vacances à la neige hein, pour la plupart, et puis vacances en famille, pas mal.
Donc, oui, et puis il y en a qui vont dans le Grand Nord.
Dans le Grand Nord.
Moi, simplement, on la connaît, la personne. Le Grand Nord, pour lui, c'est Tours. Hein, donc, ouais.
D'accord.
Voilà, mais c'est pas grave, chacun sa géographie, ça c'est... Voilà.
On a dit où on... commence le Nord ?
Voilà, alors pour au-dessus moi c'est Clermont-Ferrand, moi c'est...
Clermont, Lyon.
Bon, mais donc voilà, ski, raquette, luge, est-ce qu'on peut faire tout ça, nous, en Lozère ?
Voilà, franchement, cette année, C'est formidable parce que on a le cocktail idéal. En fait, on a les vacances qui viennent de débuter, en tout cas pour notre zone et d'autres. Ça va se dérouler sur à peu près un mois, je crois. On a le soleil en ce moment et on a surtout de la neige. Voilà. Alors ça, c'est vrai que la neige, on peut pas la commander, malheureusement. Les stations alpines pendant les vacances de Noël l'ont attendu, de même que les Pyrénées. Nous, on en a eu un tout petit peu à Noël. Et là, en ce moment, donc, c'est formidable parce que toutes nos stations sont ouvertes avec des quantités de neige importantes. Je les ai relevées là avant de venir. Hein. On est, par exemple, sur le domaine des Bouviers, on est à peu près à 80 cm de neige. À l'Aubert, Plateau du Roi, donc Charpal, on est à 50-60 cm de neige, hein, en ce moment. Hein.
Oui, oui,
le Mont-Lozère, Blémar, on est à 30-40 cm. Le Mas de la Barque, à 30-50. Nasbinal, à la station du fer à cheval, 40 cm. Et autant, puisqu'on est aussi sur l'Aubrac toujours, avec le col de Bonnecombe. Voilà, donc on a vraiment un enneigement extraordinaire cette année. Et comme il fait pas très chaud, mais qu'il fait beau, enfin bon, on est habitué au froid sec, hein, ça c'est supportable et c'est tout à fait intéressant. Bah, la neige tient. Voilà, là où il y a eu un petit problème, c'est quand il y a eu du vent là ce week-end, oui. Où ça a quand même beaucoup balayé la neige sur le Mont-Lozère. Il en reste encore beaucoup, mais c'était après les conditions de ce qui était un peu difficile,
les
circulations. Voilà, il pouvait y avoir des congères, donc c'était un petit peu compliqué. Voilà. Donc alors après, comme dit Julia, effectivement, on a la chance en Lozère de pouvoir faire du ski alpin, du ski de fond, des raquettes, et puis plein d'autres activités, mais dont on va parler certainement. Le ski alpin, c'est sur le Mont Lozère. On a 7 pistes hein, sur le Mont Lozère.
Et c'est Nasbinal aussi. C'est très très bien.
Oui, c'est très bien, c'est très bien. Et sur Nasbinal aussi, avec 3 pistes aussi pour débuter pour les enfants qui. C'est peut-être moins connu, mais c'est aussi très sympa.
Oui, moi, voilà. Je ne savais pas qu'il y avait toutes ces... Bon, je ne suis pas très, très ski non plus, mais enfin, il y en a quand même 5 ou 6, là, que vous avez
déclinés. Ah oui, il y en a 6.
Je ne savais pas qu'il y avait 6.
Et on peut citer Lozère, aussi le Montégoal, qui est à la frontière.
Qui est limitrophe des Aveyronnais, mais bon...
Voilà.
Gare Aveyron-Lozère.
Et après, bien sûr, après, il y en a aussi sur l'Aveyron, tout près. Enfin, voilà, c'est vrai que les stations du Massif central sont
pas très connues,
mais ont du charme, c'est des stations plus familiales, voilà. Et puis c'est vrai qu'alors pour les Lozériennes et les Lozériens pendant les vacances, là, d'aller dans ces stations, c'est que du bonheur.
Et justement, le public de ces stations, c'est avant tout du Lozérien ou il y a...
Mais il y a beaucoup de Lozériens, il y a aussi beaucoup sur les franges du département, par exemple le Mas de la Barque, beaucoup de Gardois qui viennent. Sur les Bouviers, il peut y avoir aussi des Clermontois, parce qu'il y a aussi des villages de vacances qui sont avec des chalets nordiques, qui équipés de sauna. Enfin, il y a beaucoup d'hébergements sur le département qui peuvent accueillir des personnes de l'extérieur et qui sont reconnus justement pour ce dépaysement, la nature dès que vous ouvrez la porte. Enfin voilà, ça c'est aussi la Lozère.
Est-ce qu'on a des infrastructures pour accueillir du monde sur ces endroits-là en termes d'accueil, d'hébergement pour des familles, pour des...
Oui, voilà, on en a essentiellement sur le domaine des Bouviers. Au Mas de la Barque, parce qu'il y a des villages de vacances autour. Après, en ce qui concerne le Mont-Lozère, Nasbinal, l'Aubert, c'est bien sûr après sur les hébergements qui sont autour. Ça peut être des gîtes ruraux. Il y a les hôtels quand ils sont ouverts pour certains, et puis les chambres d'hôtes. Enfin voilà, tous les hébergements possibles.
D'accord. Et quels sont à peu près les tarifs pratiqués sur ces stations en Lozère ?
Alors, j'avais des petites fiches. Hein, c'est il y en a plusieurs. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Par exemple, la location de matériel quand on est sur le Mont Lozère, ça va, c'est entre 3 et 11 euros, par exemple. Voilà.
D'accord. Si on prend juste une chaussure ou si on prend les deux,
voilà. c'est mieux avec une.
3 euros, avec, ça va être
mieux avec deux chaussures.
deux chaussures.
Non, mais ça dépend parce qu'il peut y avoir des luges, ça peut être après un équipement de ski de fond.
On peut louer des luges.
Un équipement de ski alpin, on peut tout louer. Voilà.
Je ne sais pas, moi, je ne vais jamais au ski.
On peut tout louer si vous n'avez pas votre luge.
Si tu vas à l'Aubert, par exemple. À l'Aubert, tu loues des luges, des skis de fond, des raquettes, tout le matériel que tu veux.
Ouais, ouais.
Tu y viens juste en tenue.
Faudra que tu
m'amènes. Un peu sportive. Ouais, on va faire une sortie.
On va faire une sortie 48 FM.
Alors là, on a parlé des stations de sport d'hiver, en fait. Hein. Oui. Mais il y a aussi deux sites qui sont importants dans le département en cette période. C'est bien sûr la réserve des Bisons. Et ce qui est formidable, alors la réserve des Bisons, c'est bien tout le temps. Mais l'hiver, c'est en traîneau, la visite de la réserve. Donc on a cette sensation de glisser sur la neige sans bruit, les calèches. On entend bien sûr le bruit des calèches.
Sur un parcours qui est immense en plus.
Oui, hein. Oui, sur un parcours qui est immense. Et c'est une autre façon de découvrir la réserve des Bisons en traîneau, donc tiré par les chevaux. Il y a le parc à loups aussi du Gévaudan qui est ouvert. Je reviens aussi un petit peu au traîneau. Il y a la possibilité, au Mas de la Barque aussi, il y a un prestataire qui propose des balades en traîneau de plusieurs formats. Donc c'est assez sympa. Je crois que la Saint-Valentin est pour bientôt, donc ça peut être aussi une occasion de proposer quelque chose à sa moitié qui sort un peu du commun. Il faut profiter des éléments.
Et pour les Bisons, c'est les mêmes parcours été et hiver ou ça change ?
Oui, ce sont les mêmes parcours. Il n'y a que le moyen de locomotion en fait, qui change.
Oui.
Est-ce que... C'est là en fait, où le sujet du tourisme rejoint un peu le sujet de la forêt. À l'ONF, on tient à ouvrir des espaces pour le ski. On a cité les Bouviers, l'Aubert, le Mont-Lozère, le Mas de la Barque, l'Aigoile et également le parc à Bisons. C'est en forêt publique.
D'accord. Donc des parcours qui sont aménagés ? Non, vous faites quoi ? Vous faites des coupes pour permettre de faire des sentiers, c'est ça ?
Ça se passe concrètement sous la forme d'une concession et on tient compte de ces espaces-là, de la valorisation de ces espaces pendant la période hivernale dans le cadre de la gestion.
Alors j'en profite justement, oui, pour remercier l'ONF parce que je crois que c'était au Bouvier où il y a eu des pistes qui ont été élargies aussi pour cette saison, il me semble. Et donc ça, c'est quand même pour la pratique du ski, c'est quand même intéressant.
Ouais,
donc
c'est très intéressant. On a combien de kilomètres de ski, en ski nordique, je parle. Hein.
En ski nordique,
sur le département. Parce que je crois que c'est très très important.
Ouais, c'est très très important. C'est vrai que c'est le total que je n'ai pas.
Parce que j'en crois que rien que sur beaucoup. L'Aubert, je crois qu'il y a 40 km de piste déjà, à peu près, tracé. Hein.
Voilà. Sur l'Aubert, on est à plus de 30 km.
Ouais.
Ouais. Sur le Mas de la Barque, on est à peu près à 30 km ski, 30 km aussi de ski nordique, 35 km à Nasbinal, et on est 40 km à Bonnecombe,
140, ouais.
Et plus de 30 km au Bouvier.
Donc voilà, 170 à 200 km de ski nordique, c'est énorme. Ouais.
Après, il y a toutes les pistes qui sont aménagées, en tout cas balisées pour les randonnées en raquette, hein, parce qu'on n'en a pas parlé.
Oui,
Julien,
on
a parlé un petit peu, ouais. En tout cas, dans les gens que vous aviez interrogés. Donc c'est quand même important. Enfin, il y a de quoi faire. C'est un bel espace de pratique.
Alors, est-ce que le CDT, par exemple, je suis mandois, j'ai de la famille qui habite à Tours, pendant cet exemple de tout à l'heure, qui veut venir passer 3-4 jours en Lozère, est-ce que je peux les envoyer chez vous pour que vous leur fassiez une proposition, par exemple, d'un package qui contiendrait une découverte du Bouvier
Alors, il y a des offres de séjour qui existent. Hein, bien sûr. Je crois que le plus simple, c'est de... Il y a deux sites internet, en fait, hein, qui sont vraiment faits pour que tout le monde puisse y trouver son bonheur. C'est lozère-tourisme.com et c'est également lozère-reza.com. Là, donc sur l'un...
Qui est la centrale de réservation.
Voilà, qui est la centrale de réservation et qui a toutes les offres possibles. Mais le site internet, et donc j'en profite parce qu'on parlait tout à l'heure un peu du e-tourisme. Le site internet, le nouveau site internet de Lozère Tourisme est en ligne depuis une dizaine de jours à peu près. Donc il va être amélioré aussi au fil des mois qui arrivent. Et on peut trouver dessus donc tout ce qui intéresse la Lozère. On a essayé de faire en sorte que le touriste, qui soit l'Auxerrien en tout cas, s'il cherche des idées de séjour ou d'excursion, ou la personne de l'extérieur du département, puisse trouver toutes les informations possibles avec différentes entrées. Si par exemple c'est une famille, donc, hein, qui cherche quelque chose. Voilà, ça peut être l'axe. Si on souhaite faire une activité particulière, et ben on a une entrée par les activités, on a une entrée aussi par les régions. Donc voilà, on peut, par quelques biais que ce soit, trouver tout ce qu'on peut vouloir faire sur le département.
Dans les packages, il me semble que vous aviez, ça fait quelques années, 2-3 ans, que vous proposez les Lozère Box.
Oui, alors les Lozère Box, elles ont une durée de vie d'à peu près 2 ans. Cette année, l'hiver dernier, en décembre dernier, donc avant les fêtes de Noël, Il y a eu trois nouvelles boxes qui ont été élaborées. C'est, tout ça est mis en œuvre avec des partenariats entre des hébergeurs, des activités de pleine nature, des activités de découverte. Et ça marche très bien. Il y a eu un très bon succès pour ces box sur les vacances de Noël et pour Noël. Et elles vivent toute l'année. Donc, je parlais tout à l'heure de la Saint-Valentin. Ben voilà, toutes les occasions sont bonnes, effectivement, pour faire plaisir et pour faire découvrir le département.
Vous avez déjà des premiers chiffres pour cette année ou pas ?
Alors là, je ne les ai pas en tête, mais de retour du service qui les a mis en place, ça a bien marché.
D'accord, voilà. Parce qu'il me semble l'année d'avant, c'est la deuxième année que vous faites ça ? Pas la deuxième édition, en tout cas.
C'est la deuxième édition, oui, d'accord. Exactement. La fois précédente, il y avait quatre box différentes. Cette année, il y en a trois qui tournent autour de la découverte, du Lozère Box Intense et une Lozère Box Nature. En tout, elle compile 50 séjours qu'on fait tourner autour de l'authenticité, de la détente, enfin voilà, enfin, toutes ces thématiques qui peuvent intéresser. Tout le monde s'y retrouve.
D'accord. Et on parlait tout à l'heure donc de e-tourisme. Il y a récemment, là, j'ai été rencontrer l'office de tourisme de Cœur de Lozère, demain, qui avec l'office de commerce, n'importe quoi, l'office de tourisme du Monde du Midi, qui met en place un diagnostic numérique du territoire. Vous êtes dans cette démarche, vous aussi ? Comment vous positionnez ?
On est dans cette démarche, on ne l'a pas encore concrètement... intégrer tout ça, mais c'est en cours. Ouais, ouais, tout à fait.
C'est quelque chose qui vous paraît important, vous pensez?
Oui, bien
que...
sûr, bien sûr, c'est très important. Ouais.
Alors, il y a un autre domaine sur lequel on voulait vous poser quelques questions. C'était notamment depuis 2011, l'Écosse et les Cévennes ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce qu'on a mesuré depuis 2011 des retombées par rapport à cette inscription ou pas? Et est-ce qu'il y a une démarche spécifique pour la mise en valeur de ce patrimoine ?
Alors, le bien inscrit donc, hein, à l'UNESCO, au patrimoine mondial de l'humanité d'Écosse et Cévennes, a mis un petit peu de temps. Alors, ce n'est pas le CDT qui le gère. Hein. Il y a une entente en fait, interdépartementale qui s'est mise en place et qui rassemble donc les quatre départements, que sont la Lozère, sur le département duquel en fait, il y a le plus d'espace en fait, hein, d'Écosse et Cévennes, le Gard, l'Aveyron et l'Hérault. C'est assez inédit, le périmètre est très important, et ce qui est compliqué par rapport à un autre bien inscrit, c'est que par rapport à la cathédrale d'Albi, on est à faire la promotion d'un périmètre qui a été classé, qui est immense, qui a été classé aussi sur la thématique de l'agropastoralisme, tout ce que, alors on en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure, hein, avec l'ONF et le CRPF, l'importance de l'agropastoralisme aussi, qui peut maintenir aussi certains milieux ouverts, enfin en tout cas il y a des liens entre nous. Donc c'est un espace très important où il a fallu que tout le monde travaille ensemble, ce qui est très intéressant, mais ça prend toujours un petit peu de temps. Et donc là, maintenant, on est vraiment dans la démarche plus dynamique, où les choses se sont mises en place, le périmètre, le bien est de plus en plus connu, des ambassadeurs viennent d'être mis en place, donc les ambassadeurs UNESCO d'Écosse et Cévennes, en fait, ce sont des personnes qui peuvent être agriculteurs, qui peuvent être loueurs, il y a toutes sortes de... Comment dire
de statut ou de métier.
Oui, voilà, c'est ça, de métier qui sont ambassadeurs de ce qu'ils font et dans le périmètre dans lequel ils l'exercent. Donc voilà, quand il y a des gens qui viennent, ils sont en mesure de pouvoir leur parler du bien Écosse et Cévennes, de ce qu'ils font et de tout ce que ça peut apporter. Voilà, donc c'est aussi ce qu'attendent les gens parce que ils viennent pas visiter un monument, ils viennent visiter un espace vivant avec des gens qui vivent dessus. Et ils viennent découvrir une région
des savoir-faire
qui est
aussi
tout à fait assez exceptionnelle. Oui, tout à fait. Il y a des savoir-faire, il y a les artisans aussi, bien sûr.
Et ça fera l'objet d'une box, ça, non ? Peut-être.
Alors,
vous savez pas ?
Ça, non, enfin, pas pour l'instant. Il y a des choses
parce qu'on pourrait imaginer un parcours
qui sont en discussion, mais ça, voilà, ça c'est
sur l'artisanat.
Voilà. Ça, ce sont des choses qui sont en train de se mettre en place, oui.
D'accord. Donc à venir.
Oui.
À venir, oui.
Donc plus généralement, donc on parlait là pour les pour la, la période hivernale, donc nos points forts c'est quand même donc nos différentes stations de ski plutôt familiales, les bisons, les loups. Et le reste de l'année, c'est quel type de tourisme qu'on pratique en Lozère?
Le reste de l'année, c'est beaucoup d'activités sportives, hein, mais beaucoup aussi de découvertes. On a aussi une saison culturelle riche sur le département, mais pas forcément que l'été. Parce que ça, je tiens quand même à le dire, hein, c'est quand même des choses importantes aussi à dire. C'est que le reste de l'année, en dehors de l'été, il y a une vie culturelle très riche et dense. Donc ça, ce sont des choses aussi qui intéressent les touristes. Et c'est toutes les activités après qu'on peut leur proposer. Alors bien sûr, ça tourne autour du sport. Il y a beaucoup d'activités dans tout le département qui existent. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la remise en forme. On a aussi deux stations thermales. On a aussi
Bagnoles-les-Bains, donc
Bagnoles-les-Bains et la Chaldette, hein, sur le Brac. Ouais. Et on a aussi tout ce qui fait l'attrait du département, c'est-à-dire ses produits du terroir, sa gastronomie, ses restaurants. Tout ça fait que la Lozère quand même est attrayante.
C'est un chiffre important, le chiffre d'affaires.
Le chiffre d'affaires est important. Alors je crois de mémoire, mais il faut que je revoie mes chiffres, mais que c'était à peu près, ça devait être plusieurs millions d'euros, hein, de retombées. Au niveau de l'emploi, on est à peu près à 2000 emplois, hein, concernés par le tourisme. C'est à peu près le chiffre aussi de la filière bois. Je pense que ça doit être à peu près aussi celui d'un autre secteur important du département, qui est le sanitaire et social. Donc oui, c'est un facteur important pour l'économie du département.
Alors quel serait pour vous, dans les années à venir, le chantier? Bon, parce que là vous arrivez, vous reposez une situation où vous êtes en train de faire un peu un diagnostic, de voir ce qu'il y a sur le territoire, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Quels seraient pour vous les principaux axes de développement sur la Lozère? Parce que c'est vrai qu'on a un flux de passage, hein, par la 75, qu'on aimerait peut-être capter un peu plus ce passage au lieu que les gens traversent la Lozère, ce qui est souvent demandé, oh, c'est beau ce pays, tout ça, qu'on les garde un peu chez nous. Comment on peut faire pour développer du tourisme vert et continuer dans cette stratégie-là avec des plus-values que ne font pas la Corrèze, le Lot, etc., qui sont aussi sur ces créneaux-là? Comment on peut dynamiser ce tourisme pour en faire un axe peut-être un petit peu plus fort sur ce département?
Alors c'est déjà quand même un axe fort, mais après pour voir éventuellement le développer, il faut savoir aussi aujourd'hui qu'on est sur un peu à une période charnière, hein, parce qu'il y a un redécoupage au niveau de la France et le rapprochement de régions. Aujourd'hui on dépend de la région Languedoc-Roussillon, on a l'habitude de travailler avec les autres départements de la région au travers du comité régional du tourisme. Le Languedoc-Roussillon va être lié à Midi-Pyrénées, donc ça va redistribuer aussi les cartes, hein, au niveau de la promotion touristique. Aujourd'hui on s'oriente aussi beaucoup sur des destinations. Hein, donc il faudra.
Parce que les Toulousains, ils montent souvent chez nous chercher les champignons. Il faudrait qu'on les capte pour autre chose, non?
Beaucoup, oui, ils viennent.
Pour
mais
les
on
spectacles.
Est content.
Pour les spectacles aussi.
Les spectacles aussi. Ils montent beaucoup. Ils viennent faire du ski en ce moment. Ouais. Oui, donc non, mais il y a beaucoup de choses.
En fait, c'est un avenir assez intéressant.
C'est un avenir intéressant.
Ça ouvre des potentiels.
Bien sûr. Aujourd'hui, c'est un peu difficile d'en parler parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se discuter, notamment est-ce que les départements vont garder la compétence tourisme, oui, est-ce qu'ils vont être chefs de file. Oui. Donc il y a toutes ces questions qui sont en cours. En tout cas, nous on continue de faire la promotion du département. On parlait de l'autoroute, hein, d'où l'importance d'avoir un bureau du tourisme sur l'aire de la Lozère. Il y a, je crois, de mémoire, plus de 150 000 personnes en fait, hein, qui passent dans le hall où la maison du tourisme est située à l'aire de la Lozère. Donc voilà, ça, ce sont vraiment des enjeux importants, et d'où l'intérêt, effectivement. L'autoroute a de plus en plus de personnes, mais de plus en plus fréquentée. Il faut essayer d'en prendre le plus possible pour leur faire découvrir le département. Ouais.
D'accord. Donc aussi, peut-être, les investissements qui seront réalisés sur le parc à loups, sous la forme d'hébergement,
le département a développé, a demandé à Lozère Aménagement de travailler sur la rénovation du parc à loups, qui est un des parcs touristiques majeurs, hein, du département. Il y en a d'autres, hein, aussi. Il y a le Vallon du Villaret, qui sont des sites touristiques importants. Le parc à loups, donc, va se rénover et va proposer L'objectif, en fait, si vous voulez, est de proposer que les personnes qui viennent et puissent y passer la journée, en fait, voilà. Et que ça ne soit pas que du passage où les gens restent deux heures, ils voient des loups et ils repartent. Visite, voilà. Ouais. C'est de fixer un peu plus les gens et qu'ils aient, et qu'il y ait des activités aussi pour les enfants. Enfin, voilà. Donc, ça, tout ça est en train d'être remanié et d'ici 2-3 ans, tout cela sera opérationnel. Donc, ça, c'est un très
joli chantier. C'est un gros budget, quand même.
C'est un gros budget pour le département. Mais c'est important parce que c'est quand même central et ça amène beaucoup, beaucoup de monde.
Donc, de dire en gros que l'axe A75 est un axe de départ sur lequel on va développer.
Bah, c'est là qu'est le flux, en fait, de la fréquentation. Et de là, il faut faire sortir les gens pour qu'ils viennent par capillarité irriguer le département.
Un petit peu Vermande.
Et bien
aussi.
Sûr, Vermande. Bien sûr, voilà. Vermande.
Avec sa belle cathédrale.
Vermande qui a sa cathédrale, qui aura bientôt un centre d'affaires, et donc qui pourra accueillir des congrès, des séminaires. Et donc c'est important parce que Mende, on a la chance sur le département. En fait, c'est pas le cas de tous les départements où le chef-lieu ou la capitale est très centrale, en fait, est tout à fait centrale et un peu au cœur des différentes régions du département. Donc c'est un lieu de passage aussi.
On est beaucoup sur des séjours courts, du coup, en Lozère.
On a de tout, des séjours courts. Alors, c'est vrai que depuis des années, les séjours sont un peu plus courts qu'ils ne pouvaient être. Hein, quand on était plus jeune, on restait plus souvent longtemps à un même endroit. Aujourd'hui, les gens circulent un petit peu plus. Et on a de plus en plus de séjours.
Mais c'est mieux réparti sur l'année aussi, peut-être.
Voilà, mais ça s'étale aussi plus que concentré sur la saison d'été. Voilà. Parce que le défi, il est là aussi, c'est d'élargir ce qu'on appelle, nous, les ailes de saison, et que les gens viennent sur le département le plus souvent possible et le plus longtemps possible.
Bon, eh bien merci.
Oui.
Je vous pose une question au directeur du CDT. Est-ce qu'il y a des axes de développement du loisir nature en Lozère? Ou est-ce qu'on... Quelle est la réflexion à ce sujet?
Ah bah, on est déjà engagé beaucoup là-dessus. Il y a beaucoup de structures qui existent et d'infrastructures qui ont été montées. Je parlerai des Via Ferrata, par exemple, sur le département, où il y a 6 Via Ferrata qui marchent très très bien d'ailleurs. Et toutes les activités nature sont une priorité. On travaille beaucoup, nous, avec la filière équestre. On travaille beaucoup avec la randonnée pédestre. Donc toutes ces activités sont très importantes. Et on sillonne, bien sûr, donc tout le département. On traverse les forêts qui sont magnifiques, et toutes les activités tournent autour de ça. Oui.
Bon, ben merci. Mais de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, puisque là, vous êtes, c'est vrai, en pleine réflexion stratégique. Les choses vont bouger, qu'elles doivent bouger, parce que c'est important qu'on ait notre place à avoir dans la nouvelle région, en tout cas, et qu'il n'y ait pas que les Aveyronnais ou les Gardois ou les gens de l'Hérault. Hein. Il faut qu'on défende notre beefsteak, qui est un très très bon beefsteak, hein, avec Ras d'Aubrac, tout ça.
Moi, j'avais juste une toute petite chose, c'est pour Julia. C'est pour Julia par rapport aux personnes qu'elle a enregistrées. Oui. Il y a au Bouvier, on n'a pas parlé justement des traîneaux à chiens. Il y en a au Mas de la Barque et au Bouvier. Et au Bouvier, il y a un baby traîneau parc qui a été monté. C'est le premier site de cette façon sur le Massif Central. Donc il faut le dire quand même, parce que la Lozère, souvent, est en avance. Sur pas de complexe à avoir, en tout cas, et c'est pour initier les enfants de 3 à 7 ans au traîneau à chiens. Donc ils voient les chiens, ils voient un peu comment tout ça se passe, et d'accord. Ça, c'est très très sympa. Voilà, donc ça peut être une idée de
ça. C'est ouvert aussi d'un temps scolaire ou pas?
Oui.
D'accord,
oui.
Donc ils sont ouverts à partir de maintenant jusqu'à la fin de la saison,
Et même tout l'été. L'été, parce que les traîneaux à chiens, ce n'est pas forcément maintenant que quand il y a de la neige, c'est aussi sur des cartes, et donc on peut s'initier à cette activité toute l'année, et ça d'accord, marche très très bien.
Bon, vous voyez, on a beaucoup de ressources, donc n'hésitez pas à passer au CDT. On peut venir vous voir en tant que.
Et le site internet, hein, surtout, parce que
le site internet aussi. Voilà.
C'est plutôt l'office de tourisme, les offices de tourisme qui sont là.
Qui sont le relais.
Qui sont le relais, et on travaille très bien avec les offices de tourisme sur tout le département. Le CDT, c'est surtout donc avec la Maison de la Lozère, l'aire de la Lozère et les sites internet.
D'accord. Vous nous rappelez les sites internet.
Donc c'est lozère-tourisme.com et lozère-reza.com. Voilà. Après, sur les différents sites divers, il y a donc notamment des webcams, donc on peut aller les trouver, hein, sur les Bouviers, le Mont Lozère, le Mas de la Barre.
Voir l'enneigement et les conditions.
Donc on voit l'enneigement en direct.
Bon, et bien merci. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver l'émission cet après-midi en podcast. Et puis, elle sera rediffusée Bon, j'ai plus les dates, mais elle sera rediffusée. Vous pouvez trouver les dates en revanche sur le site internet de 48fm.org. Et on se retrouve dans 2 semaines.
Merci. Bonne semaine.
Bonne semaine.
Merci d'être venu.
Le Conseil Général soutient la diffusion culturelle tout au long de l'année en Lozère. Retrouvez sur culture.lozère.fr toute la programmation, les possibilités de pratiques artistiques, des reportages et des jeux pour gagner des places, abonnements et divers lots. Le Conseil Général de la Lozère vous présente les saisons et les événements culturels du département sur 48FM.
Votre agenda culturel du mardi 10 au lundi 16 février 2015. On commence le mardi 10 février avec du cinéma au Ciné-Théâtre de Saint-Chély-d'Apcher avec la séance En sortant de l'école qui sera projetée à 16h15. 13 poèmes de Prévert mis en images et musique avec une fantaisie et une imagination débordante. Un petit goûter sera offert à l'issue de la séance. Tout ceci pour un tarif de 4€, 5,80€ et 6€ pour un public de 2 à 8 ans et c'est proposé par le Ciné-Théâtre de Saint-Chély-d'Apcher.
Mercredi 11 février, à la Genette Verte, à 21h, du cinéma, Les Héritiers. D'après une histoire vraie, le lycée Léon Blum de Créteil, une prof décide de faire passer un concours national d'histoire à sa classe de seconde, la plus faible. Cette rencontre va bien sûr les transformer. À partir de 12 ans, et c'est organisé par Cinéco.
Jeudi 12 février, au Petit Théâtre Gérard Boulet de Saint-Chély-d'Apcher, à 14h30 et 18h30, du théâtre, avec le Bestiaire allumé. La compagnie Arquetal, reconnue pour son travail autour de la marionnette, a voulu rendre hommage à Jean de La Fontaine. Deux acteurs, à la fois marionnettistes, bonimenteurs, conteurs, accessoristes et costumiers, se sont donc emparés de deux fables animalières. Accompagnés de marionnettes imaginées par l'artiste, peintre et dessinateur Vazniak, ils vous invitent à découvrir La Fontaine, un spectacle ludique, facétieux et intergénérationnel. Pour un tarif de 12€, 9€ et 6€, tout public dès 8 ans et c'est proposé par le Ciné-Théâtre et les Scènes Croisées de Lozère. Rencontre avec Cyril Dalmitte du Théâtre Clandestin qui nous présente la soirée Le Marquis de Sade.
Le Marquis de Sade, donc, vous l'aurez compris, qui est destiné donc, à un public averti. Et donc nous parlerons donc de Sade, de son côté radical, sulfureux, scandaleux, mais aussi de son humour, de sa sensualité qui est souvent reléguée au second plan. Donc vous l'aurez compris, pour la soirée de la Saint-Valentin, nous passerons donc la soirée avec le Marquis de Sade et aussi avec une musicienne, une harpiste qui sera là pour nous accompagner. Pour accompagner les trois lecteurs qui donc présenteront le Marquis de Sade. Et ça se passe donc le 14 février 2015, c'est à 18h, c'est chez Hank et Marjolaine, et c'est à la source de Castagnole à Castagnole. L'entrée est libre, et vous pouvez réserver, et c'est conseillé, au 06 70 83 73 53.
Bonne semaine à tous.
Bonne semaine.